Radio Prévenitive.
Engagée pour l'éducation populaire.
Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir.
Salut. Content de te revoir en vrai. Tu n'es pas qu'une voix, tu es aussi un corps. Ce soir, comme promis, on va vous diffuser la dernière partie de cette longue émission sur de sortir du capitalisme d'Armand et de ses camarades sur l'histoire et les problématiques historiques qui ont trait à l'émergence du capitalisme en Angleterre au cours du XVIe siècle. Nous vous invitons bien évidemment à écouter les deux premières parties sur le site de l'OCL ou sur le site de Radio Primitive ou sur le site de Sortir du Capitalisme. Évidemment, à les réécouter parce que, comme vous avez pu le constater, c'est très très dense. Ça va vite, il y a beaucoup beaucoup d'informations. Mais il nous semblait plus qu'intéressant de vous diffuser ces émissions. D'une part parce que on est quand même dans une réflexion non universitaire, hein, une réflexion qui se veut militante, hein, une réflexion qui a une utilité de savoir de comprendre comment ce système, le capitalisme, est apparu. Et pourquoi il est intéressant de comprendre comment il est apparu, c'est que, bon, pardon si je me répète, hein, c'est l'occasion de le dire, on a souvent tendance, hein, dans la doxa et dans l'idéologie libérale, dans l'idéologie bourgeoise, à naturaliser les choses. C'est-à-dire que les rapports sociaux sont en fait des choses qui sont naturelles, qui ne sont pas construites, qui sont évidentes. Et qui viennent de tout temps et que de toute façon on peut pas faire autrement,
on peut
rien faire parce que c'est comme ça et que ça a toujours été comme ça. Alors évidemment déjà rien que sur une vie d'homme ou de femme, il y aurait beaucoup d'éléments à critiquer. Mais comprendre comment et pourquoi ce phénomène, le capitalisme, c'est-à-dire l'apparition du salariat, c'est-à-dire la mise au pouvoir d'une classe, celle des propriétaires des moyens de production, en clair la bourgeoisie, et la transformation de masse immense de paysans en ouvriers et en salariés, est apparue à un moment. Comment elle est apparue à un moment? Quelle résistance cela a entraîné? Cela permet déjà de dire qu'un phénomène historique, s'il a un début, il a une fin.
Oui.
Donc rien n'est éternel et ça permet aussi de remettre les choses dans le contexte historique, à savoir le capitalisme ne s'est pas imposé naturellement, il a été imposé de manière violente, voire extrêmement violente. Cela a constitué une catastrophe pour des parties immenses de la population, puisqu'on les a arrachés à un mode de vie pour les projeter dans un autre mode de vie. En gros, la paysannerie qui s'est transformée en salariés. Et puis, à l'intérieur de ceux qui ont pris le pouvoir et de ceux qui ont permis l'émergence de ce mode de production, du capitalisme, il y avait plusieurs options. Et ces options ont donné lieu à des luttes extrêmement farouches. Et certaines ont été privilégiées, choisies, victorieuses en tous les cas, au détriment de d'autres. Tout ça, ça a créé des luttes et des sorties de ces affrontements qui n'étaient pas forcément évidentes au départ. Et c'est extrêmement intéressant justement de remettre ça dans le contexte et d'essayer en tous les cas de garder ça à l'esprit dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. Puisque pour ceux qui s'attachent à regarder un petit peu, à essayer de comprendre ou qu'ont une attention un petit peu, on va dire, une acuité assez proche de l'actualité d'une manière générale et du monde qui les entoure et de la société. On a quand même depuis quelques années une accélération hein, aujourd'hui sur des phénomènes et des comment dire des éléments qui nous permettraient de comprendre qu'on est en train de basculer vers quelque chose. En tous les cas, on ne sait pas encore vers quoi on va, mais on est en train de quitter un monde, une société de rapports sociaux et de rapports de pouvoir et de hiérarchie qui étaient connus. Hein, en tous les cas compréhensible par ceux qui le vivaient, mal bien sûr pour la majorité, et on est en train de basculer vers d'autres types de rapports, d'autres types d'exploitation, d'autres types de rapports de pouvoir.
Et de problèmes
évidemment, dont on n'a pas forcément idée sur quoi ça va déboucher. Alors ça peut déboucher sur le pire comme ça peut déboucher sur le meilleur. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de mourir, qui est à l'agonie, qui n'arrive pas à crever d'ailleurs.
C'est le développement. Pour moi, je vois ça. Hein. C'est ce qu'on appelle le développement.
Alors,
les forces productives.
Qu'est-ce qu'on met les fameuses forces productives. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un paradigme qui est mort définitivement. C'est de penser que le progrès,
oui.
L'accumulation des forces productives, voire l'accumulation capitalisme, quand on parle en gros termes, en gros mots, en tous les cas, le progrès pourrait nous permettre de résoudre l'ensemble des problèmes sur lesquels l'humanité est confrontée, et que même, d'une part, pour ceux qui avaient l'intention de passer à autre chose qu'à un mode de société de régulation capitaliste, le progrès pouvait être quelque chose sur lequel on pouvait s'appuyer pour pouvoir arriver, alimenter, favoriser cette transformation. En gros, c'est la majorité du mouvement ouvrier, dans ses composantes communistes et socialistes, qui pensaient que, comme le salariat allait devenir majoritaire dans la population, ça allait constituer des forces, ces forces allaient pouvoir prendre le pouvoir, et qu'on allait moins travailler parce qu'on allait produire plus, avoir plus de loisirs, participer mieux grâce à l'éducation et au progrès, enfin, et résoudre les problèmes d'accès aux richesses et aux moyens. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce progrès, il est énorme, est déjà forcément destructeur hein, de l'individu en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens, comme la notion de progrès a été aspirée, vidée, détruite, il n'y a plus de sens dans ce qu'on fait. Hein, c'est par exemple les démissions en masse qu'on peut voir ou le refus de certaines parties de la population de participer à la marche habituelle de la production. Alors, un des exemples qui a été donné, c'est la démission des élèves ingénieurs d'AgroParisTech. Ça, c'est un exemple qui a été documenté et fortement publicisé. Hein, AgroParisTech, c'est l'école publique d'ingénieurs agronomes qui forme l'élite de ce que peuvent être les ingénieurs agronomes dans ce pays. Une dizaine de ces élèves ont pris la parole lors de la remise des diplômes et affirmé qu'au bout de leurs études et de leurs réflexions, ils n'iraient pas intégrer les postes pour lesquels ils étaient destinés et qui voulaient se diriger ailleurs. Alors on l'a vu aussi lors du fameux confinement où une partie des classes supérieures, ceux qui avaient les moyens de travailler ou de télétravailler ou de travailler à domicile, ont pu avoir un autre type d'approche par rapport à leur boulot, soit aller s'installer. Résultat, ça a provoqué dans les villes dites balnéaires ou les villes où un petit peu plus à l'écart des grandes métropoles, des problèmes au niveau d'immobilier. Donc vous voyez, hein, tout ça ouais, est fortement tout à fait, lié.
Il y a certaines villes, par exemple, de Bretagne, où la population locale peut plus se loger.
Ouais.
Parce qu'il y a eu une explosion complète à cause du confinement, une explosion complète du prix des loyers.
Tout à fait. Ouais.
Une ville comme Douarnenez, Concarneau, etc. Quoi.
C'est ça. Des petites villes qui étaient encore épargnées par le phénomène d'achat de résidences secondaires se sont fait complètement avaler par ça. Alors, sur le travail, il y a d'autres formes hein, qui sont aujourd'hui tout ce qui va être de travail à la demande. Qui est apparu avec, d'une part, le statut d'auto-entrepreneur, d'autre part, l'ubérisation, ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme, c'est-à-dire le fait de pouvoir être employable sur des contrats ou des périodes extrêmement courtes, avec un statut particulier qui n'est pas aujourd'hui un statut de salarié, même si juridiquement c'est en train d'évoluer tout ça, mais on va dire que le principe aujourd'hui il est clair, c'est-à-dire que le statut de salarié il permettait peut-être un avantage, c'était celui de mutualiser une partie des risques. C'est-à-dire que sur le salaire, on a un salaire direct, le net, et un salaire différé, ce qui est l'assurance vieillesse, l'assurance chômage, etc. etc. Et ce qui permettait d'avoir, en gros guillemets, un salaire qui était détaché de l'activité et un salaire qui permettait de vivre, de survivre, en tous les cas, même lorsqu'on ne travaillait pas. Or là, avec ce nouveau type d'activité et de rapport salariat, on a clairement le fait que le travailleur assume l'entièreté des risques, qu'ils soient physiques, qu'ils soient la précarité, etc. etc. Il n'y a pas de limite aux horaires de travail, il n'y a pas de limite à la quantité de travail, et il y a la nécessité de pouvoir être tout le temps disponible. De l'autre côté, le médiateur entre les employeurs et les employés, le capitalisme de plateforme, évidemment, empoche sa commission sans prendre aucun risque et ne sert que avec l'outil technologique pour réguler ce marché. Alors ça, c'est un troisième élément hein, qui revient aussi à ce qu'on disait sur le progrès. La part grandissante de la technologie dans nos vies, à la fois dans notre quotidien, mais également dans notre travail, comme je viens d'essayer de le décrire. Alors, dans notre quotidien, c'est quoi ? C'est la sollicitation permanente, l'accélération permanente de nos vies, de nos rapports, la transformation permanente notre relation à ce qui nous entoure, à savoir les objets, mais aussi les humains, et à les considérer comme des marchandises. C'est-à-dire que tout devient acte de consommation, que ce soit la sexualité, les rapports amoureux, les rapports sociaux, etc., etc. Notre vie est désormais codifiée sous forme de data, de données numériques qui deviennent eux-mêmes des enjeux.
Et un marché.
Et un marché. Entre guillemets, le plus gros propriétaire de données dans le monde s'appelle Palantir, hein, c'est pas Google, hein, évidemment Google, Amazon, Facebook ont énormément de données, mais Palantir, c'est vraiment le géant qui vend et qui deal un maximum de données. Donc évidemment, cette relation-là, elle crée forcément des impacts et des transformations des rapports humains. Et puis évidemment, la technologie, ça a toujours été le cas, c'est un instrument énorme de contrôle social pour pouvoir surveiller, comprendre, évaluer, diriger la société, pouvoir influencer la société et évidemment toutes les méthodes qui étaient auparavant des méthodes de contrôle social, puisque l'objectif de l'État... alors pardon, hein, vous êtes dans une émission communiste anarchiste, donc on va pas vous n'allez pas être surpris, mais l'objectif de l'État et de la bourgeoisie, donc cet outil de l'État aux mains de la bourgeoisie, c'est évidemment d'assurer au maximum la pacification sociale et le contrôle social pour pouvoir faire que l'exploitation continue ou en tous des cas se passe le moins mal possible. Et on l'a vu avec ce pass sanitaire, ce confinement et ce Covid.
C'est peut-être pas fini d'ailleurs. Je voudrais parler quand même de quelque chose que je viens de découvrir au niveau des contrats de travail, au niveau intérim. Alors c'est une femme de ménage, mais ça peut être des femmes de ménage qui sont embauchées par une entreprise d'intérim, qui sont donc le patron pour eux, c'est l'entreprise d'intérim. Et l'entreprise d'intérim, elle, donc, décroche des contrats avec des hôtels rémois. Et les hôtels rémois leur font faire à cette boîte d'intérim des contrats de travail qu'elles n'assument pas. Parce qu'il n'y a personne qui vient dans leur hôtel ou pas assez de personnes.
D'accord.
C'est-à-dire que tu peux avoir un contrat de travail à la semaine du mardi au dimanche. Et puis, le mardi matin, on t'appelle. L'hôtel t'appelle en disant « on n'a pas besoin de vous avant vendredi, mais vendredi, on verra bien ». C'est comme ça que ça se passe.
Est-ce que c'est quelque chose qui serait similaire au CDI dit de chantier ?
Ah, ce n'est pas spécifié. D'accord. C'est pas spécifié. Le contrat de travail, d'ailleurs, moi, je l'ai vu. Le contrat de travail, c'est un contrat de travail intérimaire, temporaire, comme ils disent. Mais en fait, rien n'indique que le patron, que l'hôtel c'est en question... Un minimum d'heures, rien n'indique. Voilà, c'est marqué 35 heures maximum, ok. C'est pas 35 heures, des fois c'est 12 heures, des fois, voilà, dans la semaine. Et ce qui est dingue, c'est que la personne est mobilisable à tout moment.
C'est ça.
Et en plus, les hôtels se donnent, s'échangent le bon matériel, c'est-à-dire la bonne fin de ménage. Okay. Hein, c'est-à-dire qu'Ibis téléphone à. Ah, machin, une autre boîte.
Ouais, compagnie, elle allait bien, elle bosse bien.
Elle allait bien, on la prend, etc. Tous ces gens-là, qu'ils soient bien ou pas bien, ont un contrat de travail qui n'est jamais assumé, hein, qui n'est jamais assumé par l'employeur.
Alors, ces formes-là, elles sont permises aujourd'hui avec la loi, alors auparavant la loi El Khomri, puis les ordonnances Macron qui ont amplifié ce phénomène. Elles étaient déjà arrivées avec les contrats zéro heure. En Angleterre, hein, on avait l'envie de faire quelque chose comme ça. Si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs, sur le site de l'OCL, on a traduit une partie d'un ouvrage sur les contrats zéro heure par un collectif anglais qui a travaillé spécifiquement sur les luttes qui pouvaient être menées et sur ce que ça créait, les contrats zéro heure à l'intérieur des prolétariats anglais. Il est évident que c'est, on va dire... le rêve absolu pour le patronat, puisque on revient en fait à ce qui est au départ l'origine du capitalisme, dont on va parler dans quelques minutes, qui est le travail à la tâche, quoi.
Ouais, travail à la tâche, c'est ça. Hein,
et l'employeur n'a même plus vocation à assurer le minimum pour que, on va dire, parler en termes marxistes, le prolétaire reproduise sa force de travail. De toute façon, il y a tellement de gens sur le paquet, quoi, qui ont besoin de travail pour vivre, qu'il trouvera toujours quelque chose. Mais quand même, il faut voir qu'il y a encore ce qui nous fait dire que tout n'est pas perdu et que la lutte de classe, c'est encore quand même un bel outil qui peut être mobilisé par les prolétaires. Il commence à y avoir à la fois des contradictions et des résistances.
Ouais.
Alors, les contradictions, vous en avez peut-être entendu parler. Aujourd'hui, il y a de gros problèmes pour l'industrie touristique, oui. Notamment sur l'emploi, et ça va arriver dans la viticulture et dans l'agriculture cet été, pour l'emploi sur les saisonniers. Et c'est vraiment intéressant pour qui a un petit peu l'habitude de travailler dans ces secteurs-là. Alors moi, je connais un peu le côté saison, pas forcément en termes de touristique, mais plutôt en agriculture. On a des prolétaires, des travailleurs qui ont très très vite compris que la réforme du chômage, avec l'explosion, l'éclatage des modes de rémunération du chômage, des indemnisations chômage et de la réduction du SJR, du salaire journalier de référence, allait être totalement impactant dans leur vie. Et ils ont décidé soit de changer, soit d'arrêter, ou soit d'exiger des conditions de rémunération qui soient beaucoup plus intéressantes. Et aujourd'hui, c'est en train de coincer,
C'est en train de coincer, en plus d'autant plus qu'au niveau, par exemple, des restaurants. Le restaurant avec le chef qui était un pourri et qui engueulait tout le monde, maintenant il la ferme parce que s'il gueule de trop, il n'a plus personne.
Et le mec se casse, hein, direct.
Les gens, ils se cassent. Ouais. Donc c'est ça qui est nouveau, effectivement.
Et avec des secteurs extrêmement précis, on voit bien l'intelligence de nos dirigeants. Exemple, les maîtres nageurs. Les maîtres nageurs sur les piscines des centres d'accueil ou des campings ou des lieux collectifs de vie qui sont des contrats très spécifiques, très datés, très circoncis au niveau du temps de travail. Et ben, pouf, pas de maîtres nageurs cette année puisque les mecs préfèrent faire aller à la piscine municipale pour avoir un long contrat et bénéficier des trucs. Et là, c'est vraiment en train de coincer. C'est pas une question de rémunération. Les pauvres imbéciles de la restauration et de l'hôtellerie ne comprennent rien. Ils ont eux-mêmes creusé la tombe dans laquelle ils ont. Voilà une contradiction.
Alors, ça pose aussi le problème de la main-d'œuvre, donc de l'immigration.
C'est ça. Ah. Alors, une autre contradiction aussi qui vient c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'immigration extrêmement important et ça devient de plus en plus difficile de migrer, même pour le travail. Il y a eu la semaine dernière une tentative de passage en force à Melilla, qui sont les deux enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla, qui permettaient en fait le passage des migrants d'Afrique. Je crois qu'on en est à 27 morts aujourd'hui, il y en a encore plus. Il y a une tentative d'assaut collectif pour entrer dans les enclaves espagnoles. Les gendarmes espagnols et marocains ont tiré à balles réelles.
Ouais, c'est ça.
Pour éviter d'être débordé. Donc voilà des contradictions. Et puis des contradictions qui vont être amplifiées, puisque aujourd'hui, on est de plus en plus dans ce qu'on est capable de mesurer sur le dérèglement climatique, oui. Avec des températures de 40 degrés au mois de juin, des tornades, des orages extrêmement violents, un ralentissement des courants marins en relation avec la baisse de la salinité de l'eau, qui provoquent des phénomènes météorologiques hyper violents et donc des impacts sur les cultures, mais aussi sur les villes. Ici, à Reims, on redoute le retour des orages pour l'avenue Jean Jaurès. Hein, ils n'ont pas été capables encore de prévoir.
De régler le problème.
Voilà. Et puis, forcément, on estime, avec la famine qui va se développer et également les problèmes climatiques, hein, 50 degrés au Pakistan, 50 degrés en Inde, à un peu plus de 80 millions de personnes qui vont être obligées de se déplacer au cours des 5 prochaines années. Donc là, on va quand même arriver à des problématiques qui vont être importantes. Alors voilà, ça nous permet de mesurer le cadre dans lequel la transformation du capitalisme va s'effectuer. Vous aurez noté qu'on vous n'a pas parlé de la politiquerie et des élections. Non pas qu'on ne veut pas, il y aurait énormément de choses à dire, mais ce qui est super intéressant, c'est de voir que le fameux Mozart de la finance, qui nous avait été décrit comme un surdoué de la politique, hein, il y a 5 ans hein, déjà, eh ben, il galère un peu pour...
Ça va être de pire en pire pour lui, je pense.
Ça va être clair. Compliqué. Alors, on va arriver dans une espèce de politiquerie vraiment de salon, de couloir, ça, tout va se dealer, etc. Vraiment le plus mauvais truc qu'on peut avoir de la 5e République, mais ça va être quand même un peu compliqué pour lui. On va dire que la représentation politique telle qu'elle est aujourd'hui ne correspond pas à l'état de la société, d'une part avec un décrochage massif puisqu'on est à 70% d'abstention chez les 18-35, donc les gens qui sont quelque part dans le cœur de la société. D'autre part avec des gens qui vont voter pour un gros tiers pour le maintien de l'ordre en place ou pour son durcissement, c'est le cas pour le Rassemblement National, hein. On a aujourd'hui 89 députés du Rassemblement National. Bon, ces gens-là ne vont servir à rien. On va voir d'ailleurs la qualité du personnel politique qui va se développer, mais qui font que va y avoir des politiques qui vont être menées, qui vont être en contradiction terrible avec ce qu'il y a dans la société et qui vont peut-être créer des protestations et des réactions.
Ouais, d'autant plus que Macron ne pourra pas produire ces réformes, comme ils disent, les réformes, vous savez, dont le capital a besoin, là, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Ça va être beaucoup plus long et ça risque de poser effectivement des problèmes.
C'est ça. Et on voit, par exemple, l'incapacité, où on est aujourd'hui, c'est le troisième mois après la fin de l'élection présidentielle, on n'a toujours pas de gouvernement, on n'a toujours pas de programme, on n'a toujours pas de mise en action de la politique gouvernementale. C'est assez incroyable, quand on voit. Et puis, il y a évidemment une tension internationale qui est assez importante. Mais on voit là tout de suite commencer à poindre petit à petit la bourgeoisie qui se réveille parce que elle sent quand même qu'il y a des difficultés qu'il va falloir reprendre en main. J'en veux pour preuve ce dimanche à l'intérieur du journal du dimanche, une tribune assez incroyable. Des trois plus grands producteurs d'énergie français, voire mondiaux, à savoir Total Energy, donc Total, le pétrole, Engie, c'est le gaz, hein. Oui, non, c'est l'électricité, ouais. Et comment c'est l'autre, GRDF, peu importe, c'est pas grave, le gaz. Et ces trois PDG se sont permis d'écrire une tribune à l'intérieur du JDD pour appeler la population française à faire des efforts, à consommer moins, parce que il y a une projection sur l'incapacité de ces trois acteurs énergétiques, ces trois entreprises énergétiques, à accumuler assez de réserves pour passer l'hiver. Alors, il y a à la fois deux choses à dire là-dessus, puis on n'ira pas trop loin. C'est qu'on voit vraiment la bourgeoisie qui en est. C'est-à-dire que c'est à vous de faire des efforts, c'est pas à nous. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, le patron de Total, lui, il prend l'avion. Hein. Le patron d'Engie, il prend l'avion. Un plein de kérosène, c'est l'équivalent d'une famille qui consomme pendant 6 mois. Donc lui, il va continuer à prendre l'avion. Mais pour que lui continue à prendre l'avion, il faut que vous, vous alliez à pied, hein, évidemment. On voit aussi la question de la dépendance, c'est-à-dire qu'il y a des tonnes de gens qui sont complètement dépendants de leur bagnole et qui aujourd'hui vont se retrouver confrontés à mettre la moitié de leur salaire dans la possibilité de se déplacer, puisqu'on est encore sur une montée de ça. Et puis on est aussi sur le fait de dire qu'il n'y a aucun contrôle de la spéculation, hein, puisque le pétrole ne coûte pas plus cher à être produit, hein, c'est pas un problème de production, c'est un problème véritablement de spéculation entre la production et l'arrivée sur le marché. Évidemment, là-dessus, pour le rappeler, c'est un argument que vous avez certainement entendu, l'année dernière, Total a réalisé le plus gros bénéfice de toute l'histoire de l'industrie française. De toute l'histoire de l'industrie française depuis que les chiffres sont mesurés. Ça représente 64 milliards d'euros. Rappelez que le déficit de la France est à 2600 milliards. Et enfin, on a la déclaration du ministre de l'économie ce matin, qui a dit que, ben, en fait, finalement, il n'y aura peut-être pas de chèque parce qu'il va falloir pouvoir réduire la dette et rester dans les critères européens. Donc, fin de la récréation, on revient fin d'échec.
Et puis on va aller dans la rue parce qu'il serait temps.
Et oui, il faut espérer arriver dans la rue, sauf que nous, on a un petit wagon de retard quand même par rapport au pouvoir, que le pouvoir, on l'a dit, a une police à ses ordres, qui est très féroce et très 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 prête à en découdre. Rappelons qu'à l'intérieur des élus du Rassemblement National, il y a 3 policiers qui ont été élus. Hein, vous voyez bien où est-ce qu'ils votent ces gens-là. Il y a les moyens de contrôle qui sont là, donc l'affrontement risque d'être à la fois social. Enfin bon, voilà, disons qu'on a les prémices de la guerre de classe qui sont là et qui sont prêts. Donc je me tais, en parlant de guerre sociale, on va aller transporter dans une guerre sociale qui a eu lieu il y a maintenant 4 siècles, avec donc Armand et son camarade, pour revenir sur l'émergence du capitalisme, en vous souhaitant une bonne écoute et en vous disant peut-être à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà.
Mais on va essayer de rentrer dans l'analyse de la troisième phase qu'on peut dater de 1689 à 1832, qu'on pourrait là caractériser par le côté révolution militaire anglaise. Là encore, des guerres perpétuelles. On va croire que c'est tout le temps la guerre, ce qui était plus ou moins le cas finalement. Alors l'ennemi change, effectivement, tu as précisé, plus les Hollandais dans un premier temps par rapport à des guerres commerciales notamment, puis la France dans un second temps et pour une période très longue. Et une autre vague aussi très administrée d'Enclosure Act à ce moment-là, et un niveau, on va dire, de proto-industrialisation là aussi qui augmente très très largement. Et bon, le processus d'unification du marché, lui qui était déjà à l'œuvre, on l'a déjà vu dans la période précédente, mais qui, on va dire, pareil, se renforce. Peut-être tu peux rentrer un peu dans les détails aussi de dynamique pendant cette dernière phase sur laquelle on s'arrêtera. Alors, on s'arrête sur 1832, qui est la phase des Factory Acts, donc là où, avec ça aussi, c'est, on rentre dans une autre phase du capitalisme que Marx appelle la subsomption. On passe de la subsomption formelle à la subsomption réelle, mais là on va pas rentrer trop dans les détails, donc peut-être juste avoir des détails sur cette période-là.
Alors du coup, pour finir sur comment est-ce qu'on arrive à ce début de période, c'est que la Restauration anglaise, donc qui avait triomphé à partir de 1660, à un moment, Jacques II va succéder à Charles Ier en 1685, et lui, ce qu'il veut, c'est faire Louis XIV en Angleterre. Or, il y a un décalage en termes de classe sociale et de au sens large, et de structure sociale. C'est pas du tout, on n'est pas dans les mêmes structures. Et donc, du coup, les capitalistes agraires vont s'opposer fortement à Jacques II, et il va perdre la dernière des guerres civiles anglaises en 1688-1689. Il va y avoir un remplacement de dynastie, c'est-à-dire que le roi de Hollande va devenir roi d'Angleterre. Donc, ça va être la dynastie des Oranges. Et donc, du coup, tous les acquis, entre guillemets, de la Révolution anglaise persistent, et même il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent en 1689, puisqu'en 1689, on abolit même le monopole légal sur le commerce extérieur. Bon, alors, il y a une exception ou deux, mais c'est-à-dire que même les compagnies, par exemple, qui avaient le monopole sur la traite des esclaves, parce que ça, c'est un moment effectivement qui est très important dans l'émergence du capitalisme. Aujourd'hui, on considère que les profits qui sont liés à la traite des esclaves joue quand même un rôle très très important dans l'émergence du capitalisme en Angleterre. Je pense que ça fera l'objet d'une autre émission, mais je pense que c'est important de le rappeler. Mais disons que même le marché de la traite des esclaves va devenir un marché concurrentiel. C'est plus un acteur qui a le monopole de la traite des esclaves en Angleterre, et ce monopole est donné par le roi. C'est carrément même une espèce de... C'est horrible, hein, mais un marché concurrentiel pour la traite des esclaves. Voilà. Donc, disons que 1689 approfondit encore ce qui s'était passé auparavant et va l'approfondir sur un autre domaine qui est la révolution financière. C'est-à-dire que avec la création de la Banque d'Angleterre, les investissements capitalistiques vont être facilités grandement. L'accès au crédit va être... La Banque d'Angleterre est créée en 1695, donc suite à cette révolution. Et du coup, elle va centraliser la monnaie. Donc ça, c'est important. Il y a une monnaie. En France, à la même époque, il n'y a pas une monnaie, il y en a plein. En Angleterre, globalement, il y a une monnaie, qui est la livre, qui est émise par une banque centrale, qui va donc pouvoir à la fois financer l'État anglais massivement pour ses guerres. On a parlé de deuxième guerre de 100 ans, parce qu'en gros, la France, entre 1688 et 1815, est en guerre avec l'Angleterre de manière quasiment pas permanente, mais enfin, elle est en guerre de... La France et l'Angleterre sont en guerre de 1688 à 1713, de 1756 à 1763, pendant la Révolution américaine, pendant 10 ans, du coup, et puis après, pendant 25 ans, quasiment 23 ans, pendant les guerres napoléoniennes.
Mmh. Donc, et pas seulement sur le front entre la France et l'Angleterre, mais aussi dans les Caraïbes,
Au Canada, quasiment des guerres mondiales.
Le théâtre est assez large pour toutes les guerres qui ont eu lieu entre la France et l'Angleterre à ce moment-là. Avec la France qui passe son temps à se protéger, à fabriquer des forts de plus en plus gros, le fort de Martinique, par exemple, contre les Anglais, qui des fois n'a même pas le temps de faire le fort avant que les Anglais attaquent.
C'est ça qu'il faut rappeler, effectivement, c'est que l'Angleterre, on a beaucoup l'image de l'Angleterre, voilà, un État faible, une petite armée minable. Et en fait, c'est une image qui est complètement fausse. Déjà, ça c'est quelque chose qui est important de le rappeler, je pense, surtout à ce stade de l'émission, c'est que le premier État véritablement centralisé de l'histoire, c'est l'État anglais. C'est le premier État où déjà il y a une unification territoriale. En France, la monarchie absolue se superpose à tout un tas de féodalités, de seigneuries, d'évêchés, de villes qui ont des privilèges et qui sont autonomes et tout ça. En Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, c'est peut-être que c'est un peu peu rapide de le dire, mais globalement, à la fin du XVIIe siècle, s'achève un processus d'unification qui a commencé très tôt, en 1066, quand Guillaume le Conquérant conquiert l'Angleterre. Et ben voilà, il met la main sur toute l'Angleterre. Et c'est pas juste sur un bout de la France comme la monarchie française.
Et pour aboutir effectivement précocement à ce qu'on pourrait appeler un État-nation ou l'État dans sa forme moderne, quoi, qui c'est va ça. Arriver qu'en 1789.
Le nationalisme anglais existe déjà en fait au XVIIIe siècle. Il y a déjà, parce que de fait, il y a une langue, il y a un marché, il y a un processus d'unification, de nationalisation des sociétés, pour parler comme Gérard Noiriel, qui est fait. Parce que cet État, il est centralisé, personne ne le contexte, parce que les classes dominantes sont incluses dans cet État. En France, c'est un petit peu plus ambigu, puisque par exemple, les seigneurs participent à la fois à l'absolutisme quand ça les intéresse, et puis quand ça les emmerde, ils vont faire des révoltes, comme la Fronde encore au milieu du XVIIe siècle. Et même encore les frondes parlementaires à la fin de l'Ancien Régime. Du coup, il n'y a pas d'unification de la France avant la Révolution française. Et d'ailleurs, c'est une des légitimations de la Révolution française, c'est d'avoir unifié véritablement la France. La bourgeoisie dit qu'elle a unifié véritablement la France. En Angleterre, la situation est très différente. Depuis même 1066 ou 1215, l'aristocratie fait partie de la monarchie. Alors, c'est pas encore un État, de la monarchie, parce qu'elle fait partie du Parlement, qui est une des institutions centrales. Donc, c'est la représentation de la classe dominante. Alors, au début, c'est des barons, tout ça, des aristocrates. Et puis, bon, si on va très très loin, il y a eu un processus de modernisation et tout ça. Si on arrive à la fin du XVIIe siècle, là, on est véritablement sur un État moderne, parce qu'il y a une bureaucratie qui est payée par des impôts qui sont prélevés, d'ailleurs, en partie sur la classe dominante elle-même, et qui va servir à améliorer la position du capitalisme anglais face à d'autres sociétés qui, elles, ne sont pas encore face à d'autres États qui, eux, ne sont pas encore capitalistes. Et donc, la centralisation de l'État va permettre de lever d'énormes sommes d'impôts qui font qu'en fait, le prélèvement en Angleterre en termes d'impôts est plus important au XVIIIe siècle qu'en France. Parce que, comme la classe capitaliste est au pouvoir, à travers le Parlement, et que la monarchie, quand même, bon, elle a du pouvoir, mais elle n'est pas aussi forte qu'en France, disons, eh bien, elle va accepter de s'auto-ponctionner, alors que les nobles ne veulent pas du tout s'auto-ponctionner. On se souvient, hein, en France, les nobles refusent de payer l'impôt jusqu'en 1789. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Ancien Régime entre en crise. En Angleterre, pas de problème, puisqu'ils sont aux commandes, et que ça se fait dans leurs intérêts, c'est-à-dire, en fait, bah, de faire la guerre contre des rivaux commerciaux. Et ça va leur permettre cette capacité de mobilisation fiscale, du fait que, bah, comme c'est la classe au pouvoir, ils vont s'auto-imposer de manière très forte, et ce qui va leur permettre de gagner toutes les guerres, globalement, qu'ils vont mener contre la France, notamment pendant la guerre de 7 ans, 1756-1763. Et on peut dire d'ailleurs que la puissance de l'Angleterre, du fait justement qu'elle est déjà passée au capitalisme, qu'elle est déjà dans un état moderne, va notamment entraîner la chute de l'Ancien Régime en France. Parce que l'Ancien Régime, lui, avec, disons, la ponction monarchique et féodale, dans un système non capitaliste, où il n'y a pas d'augmentation de la productivité, où il n'y a pas de capacité de lever des impôts aussi importantes, où il n'y a pas de révolution financière et tout ça, bah, ne va pas pouvoir suivre. Et c'est ça qui va amener, notamment, mais ça, on le développera dans une autre émission que celle-ci.
Sur la naissance du capitalisme français, avec une naissance plus conquérante, avec le bonapartisme, etc. Un peu aussi en réaction au fait qu'ils n'étaient pas forcément en mesure de prélever ce niveau de fiscalité avec une structure agraire qui n'était pas non plus en mesure d'être ponctionnée à ce point-là dans des logiques monétaires sonnantes et trébuchantes et financer, les guerres. Et, voilà.
Et après, je pense que c'est important maintenant de passer sur la dernière phase. Hein. Bon, voilà, il y a toutes ces nouvelles transformations. Alors, d'une part, bon, je vais pas trop développer ça, mais il y a une troisième vague d'enclosure. Voilà, bon, c'est bizarre, il restait encore des paysans à cette époque. Oui, il en restait 10% à peu près. C'était en gros les gros paysans, quoi, qui avaient réussi à peu près à s'adapter au marché, entre guillemets. Hein, ça se fait toujours, les crémages se fait toujours par phase. Les paysans qui avaient réussi à s'adapter au marché, ils n'ont pas encore assez d'hectares, ils sont pas vraiment des fermiers capitalistes, ils ont pas ou peu de salariés agricoles. Et ben, ils vont progressivement être, éliminés par les mécanismes de marché. Mais ça, c'est pas directement les enclosures actes. Les enclosures actes, c'est tous les communs qui restaient et qui permettait à tous les gens qui s'étaient fait exclure de leur terre, bon, de survivre avec une vache, en cueillant des champignons et tout ça, ça représente quand même 1 million d'hectares, quand même, hein, donc c'est pas rien, tous ces communs vont être appropriés entre les différents propriétaires fonciers capitalistes et les différents fermiers capitalistes de 1750 à 1850 par des actes du Parlement qui vont dire... Bon, bah, ça, là-bas, là, dans le comté de machin...
Là, c'est une dynamique aussi, contrairement aux autres mouvements d'enclosure, très centralisée aussi.
Elle est très centralisée.
Ouais. Donc, on est vraiment là sur l'État moderne et dans sa, capacité à pouvoir voilà, développer des politiques. Et là, en l'occurrence, effectivement, exproprier
1 million d'hectares,
massivement 1 million d'hectares. Ouais.
Alors que la France, les physiocrates, on verra ça dans l'émission, ce qu'on fera sur la France, mais en France, les physiocrates veulent faire la même chose, ils vont pas réussir. En fait, c'est incroyable, mais jusqu'à aujourd'hui, bon, aujourd'hui, on est très très loin, mais jusqu'à aujourd'hui, ça s'est fait très lentement, mais il n'y a jamais eu un moment où la classe capitaliste en France a réussi à exproprier massivement les paysans, qui sont devenus des exploitants agricoles et tout ça. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a des dynamiques de concentration et tout ça, mais même pendant la Révolution française, la paysannerie française, on le verra, ne va pas se faire exproprier massivement. Au contraire, elle a plus de terres à la fin du 19e siècle qu'à la fin du 17e siècle.
Elle récupère les ventes des biens nationaux.
Elle en récupère une partie.
Et les terres du clergé. Et elle va même se mobiliser parfois contre les bourgeois et les commerçants qui vont vouloir racheter les terres.
C'est ça.
Notamment dans le nord de la France. C'est assez documenté dans la thèse de Georges Lefebvre.
Ouais. Et ben, du coup, pour le coup, en Angleterre, on n'est pas du tout sur ce scénario-là. Mmh. Et du coup, le dernier phénomène qu'il faut quand même aborder, même si je pense qu'on ne rentrera pas trop dans les détails, puisque finalement, c'est un peu la cerise sur le gâteau de l'émergence du capitalisme en Angleterre, c'est le fait que le capitalisme agraire naît d'abord en Angleterre, le capitalisme financier naît d'abord en Angleterre, avec la Banque d'Angleterre, et le capitalisme industriel naît aussi d'abord en Angleterre. Alors évidemment, il y avait déjà des manufactures, manufactures médiévales. Il y avait déjà des manufactures, voilà, des manufactures métallurgiques. Voilà.
D'ailleurs, il y avait ça dans les autres pays aussi, des manufactures d'État.
C'est ça.
Enfin, voilà, tout le monde est quand même impliqué dans la course à l'armement en Europe et a constitué ces manufactures d'État. Donc, ce n'est pas non plus là une spécificité
anglaise,
mais par contre, effectivement, l'industrialisation, elle...
Voilà. Et donc, du coup, c'est aussi le premier pays, l'Angleterre, où va y avoir une industrialisation. Alors, je pense qu'il faut peut-être, je ne sais pas si c'est très utile, mais je pense que c'est important quand même de dire pourquoi est-ce qu'on arrive à l'industrialisation. On en a fait beaucoup, une espèce d'aboutissement du progrès technique et tout ça. En réalité, comme l'explique un historien qui s'appelle Andreas Molnek dans un ouvrage qui s'appelle Rethinking the Industrial Revolution, donc repenser la révolution industrielle, qui est aussi un historien marxiste dans la lignée d'Hélène Mexinswood et de Robert Brenner, sur lesquels globalement on s'est appuyé dans cette émission, lui il explique que la révolution industrielle, c'est tout simplement l'aboutissement d'un processus interne aux manufactures. C'est-à-dire que les manufactures au début, c'est simplement on groupe des artisans. On les groupe pour les faire travailler ensemble, pour que ce soit plus efficace et tout. Et à un moment, on va considérer que on commence à imiter les dynamiques qui sont présentes dans l'agriculture. On a un marché national aussi, disons des biens manufacturés et tout ça.
Et disons que la manufacture, il y a le rassemblement de corps de métiers, mais les métiers ne sont pas transformés en tant que tels. Par contre, il y a quand même première forme d'abstraction géographique avec la réunion de travailleurs dans un lieu particulier qui est le lieu de travail. Et donc il y a déjà aussi une forme de dissociation sur la question du travail puisqu'il se passe un endroit particulier où on réunit des corps de métier. Mais contrairement effectivement à la machinerie, il n'y a pas eu de reconfiguration du travail en tant que tel. C'est plus... Donc ça, c'est effectivement une distinction forte. Et là, effectivement, en Angleterre, va se passer des métamorphoses de la manufacture vers l'industrie.
Du coup, d'abord, vers ce qu'on va appeler le système des fabriques, en fait.
D'abord,
c'est ça.
Voilà, les fabriques.
Ouais. Voilà, les fabriques. Alors du coup, c'est quoi la différence entre les manufactures et les fabriques? Globalement, c'est que pour augmenter la productivité de ces artisans qui restent des artisans, on va leur donner des machines. Il va y avoir un processus de mécanisation très important. Donc, il va y avoir le métier à tisser, mécanique, le métier à filer, mécanique et tout ça, parce que la révolution industrielle, c'est quand même beaucoup d'abord du textile. Et on va augmenter cette productivité Parce que il y a parce que bon voilà le la productivité des artisans est trop faible, ils ont une trop grande maîtrise sur le procès de travail, et on veut voilà faire qu'ils produisent de la marchandise parce qu'il y a un immense marché qui est évidemment le marché de Londres.
Londres, oui.
Bah, il faut vertir 500 000 maintenant à la fin du 18e siècle, 1 million de personnes. Donc, il y a quand même 1 million de personnes à vêtir. Donc, ça fait un marché gigantesque et qu'on peut, du coup, qu'on ne peut plus pourvoir ou qu'on pourrait pourvoir, disons, de manière plus efficace en finissant avec ce qu'on avait appelé la proto-industrie. À mon avis, je pense que le concept n'est pas très juste, mais avec ces artisans qui travaillent chez eux et qui... voilà, qui filent, qui tissent chez eux, et qui ensuite revendent à un marchand. Mais le problème, c'est que c'est pas assez efficace. Alors du coup, bon, il y a le premier mécanisme, évidemment, il y a la manufacture, mais la manufacture, globalement, c'est juste des artisans qui sont ensemble dans la même unité de production, mais qui maîtrisent totalement leur procès de production. La fabrique, ça va être, déjà, comme ça devient mécanique, il y a une première déqualification. Donc, on va pouvoir commencer à employer par-ci par-là des enfants et des femmes.
Il y a une première soumission au procès de production
c'est ça.
Du travailleur aussi. Il maîtrise un peu moins le rythme avec lequel il va produire le nombre de marchandises.
C'est ça. Alors, voilà. Donc, du coup, on va ramener des machines et on va instaurer un règlement disciplinaire. C'est-à-dire que c'est plus les artisans rentrent et ressortent quand ils veulent du moment qu'à la fin, ils ont fait la commande. Non, là, c'est vraiment... On ouvre les portes à 5h, on les ferme on ouvre les portes à 5h moins 5, on les ferme à 5h, et on rouvre les portes à, je sais pas, 20h, et on les ferme à 20h05. Donc, qui préfigure un peu l'usine, quoi. C'est-à-dire, voilà, du coup, les ouvriers sont, enfin, les travailleurs sont encore formellement dans une partie de. Ils peuvent encore un peu maîtriser, sauf qu'ils ont des contremaîtres sur le dos. Dans le système des manufactures, il y avait des contremaîtres, mais beaucoup moins. Là, il va y avoir des contremaîtres qui vont vérifier la productivité. Là, on passe vraiment à un nouveau stade. Voilà. Et du coup, ça va être ça, l'industrialisation d'abord. La deuxième phase d'industrialisation, ça va être à partir des années 1820-1830, quand les ouvriers vont, là, carrément, ne plus être maîtres de ce processus de production. Puisque là, on va introduire carrément des métiers à tisser, des métiers à filer automatiques. Alors, bon, c'est pas l'automation d'aujourd'hui, hein, mais où ils vont être complètement dépossédés de. Enfin, là, ils ne maîtrisent plus du tout le processus. Enfin, beaucoup moins, disons, le processus de production. Et là, le capitaliste sera en mesure, puisque tous ces métiers à tisser, métiers à filer automatiques sont reliés à une machine vapeur, de augmenter la productivité. Comme il le veut. Et donc du coup, voilà, ça c'est, je pense que c'est, on va pas trop s'étaler là-dessus parce qu'il y a, bon, ça a déjà été dit ailleurs et tout ça. Mais je pense que c'est important de dire que la révolution industrielle, qui ne se passe nulle part ailleurs en Europe, dans le monde même, avant les années 1850 globalement, hein, dans les autres pays, bon, en France dans les années 1840 disons, elle se passe en Angleterre de manière très précoce. Et avec une dynamique où on va passer de ces petits artisans qui étaient soit isolés, soit mis ensemble, à un véritable régime disciplinaire où les travailleurs vont devenir de plus en plus des appendices du capital et de la machine et vont être forcés d'augmenter, de s'ajuster à une productivité toujours croissante, quoi. Parce qu'il y a un marché concurrentiel, unique, qui est celui de Londres. Et tout. Donc voilà ce qu'on a voulu montrer voilà, à travers toute cette deuxième partie, c'est que le capitalisme, donc il naît en Angleterre, et comme j'espère on l'a montré, c'est pas l'aboutissement logique et inéluctable de l'histoire. En réalité, il n'est né qu'en Angleterre, à travers toute une série de ruptures, et ces ruptures ont pu terminer autrement. C'est-à-dire, bah, si le camp globalement, entre guillemets, réactionnaire, même si c'est peut-être pas forcément comme ça qu'il faudrait le qualifier, de Charles Ier, voilà, les vieux aristocrates l'avaient emporté, bah, c'est pas sûr qu'on aurait basculé dans le capitalisme. Si l'Espagne avait conquis l'Angleterre en 1588, c'est pas sûr qu'on serait dans le capitalisme. Bon, on serait probablement pas dans une meilleure société d'ailleurs, mais enfin bon. Voilà, toujours est-il que ce qu'on espère avoir montré, c'est que ce que l'histoire de l'Angleterre avait singulier, et que du coup l'émergence du capitalisme, c'est un processus qui est singulier, qui est spécifique, et qui n'est pas l'aboutissement naturel d'une tendance très ancienne, voilà, qui se retrouverait partout dans le monde et qui se développerait voilà, de manière plus ou moins rapide. Voilà, c'est vraiment un processus spécifique, et du coup, le capitalisme n'a rien d'indépassable et d'inéluctable.
Voilà, merci beaucoup Armand, mais effectivement on revient donc du coup sur cette logique de rupture ontologique, voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu une série d'éléments qui de manière explosive ont amené au développement du capitalisme. On a pu regarder à travers du coup cette histoire de l'Angleterre différentes phases qui passent par des processus d'exclusion, les enclosures dans différentes formes à différents moments, une logique aussi de généralisation de l'usage de la monnaie qui passe de voilà de monnaie vers on va dire forme moderne argent unique en Angleterre, et ça aussi ça s'est fait de manière progressive, une logique de commerce ou de marché ponctuel ou de place de marché vers une logique de marché unifié généralisé, et
où on peut échanger tous les biens contre tous les
voilà,
biens
voilà ou tous les biens voilà où il y avait des biens qui circulaient on va dire dans des sphères indépendantes ou répondaient à des logiques sociales particulières. Et voilà, et là on bascule progressivement aussi vers des logiques de marché généralisées et vers une force de travail qui devient du coup lui-même marchandise et qui va donc être soumis à un procès de production aussi, qui va se métamorphoser de la manufacture à la fabrique, puis à l'usine et à la grande machinerie, et s'intensifier plus tard. Donc voilà, on voit que tout ça n'est pas un simple processus d'amélioration technique, mais un processus social complexe avec une série de préconditions multiples.
Et de voilà. Conséquences funestes.
Et de conséquences dramatiques, et voilà, dont on a les résultantes dans le processus de crise actuelle. Merci beaucoup Armand. Du coup, toutes ces précisions, j'espère que vous en savez plus sur l'émergence du capitalisme en Angleterre à l'issue de cette émission. Et on vous remercie, on vous dit à bientôt.
Attends, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.